On pourrait presque dire, dans ce quatrième entretien consacré à cette vie un peu d'artiste et de rencontre avec vous, Grégory Turpin, je vous salue, bonjour,
Bonjour.
que cette vie d'artiste n'est pas toujours un long fleuve tranquille au
Ah non,
quotidien.
non, non.
Vous bougez beaucoup, vous êtes un peu itinérant.
Tout le temps, je suis tout le
Ouais.
temps en mouvement.
Et comment vous vivez un peu cette itinérance dans cette vie d'artiste, tout en préservant la prière aussi, qui est importante pour vous?
Ben c'est là est l'enjeu, vous avez mis le doigt sur l'enjeu. C'est-à-dire que bah, il faut arriver à trouver une régularité dans tout ce qui est dans tout ce qui ne peut pas être régulier en fait. Puisque je voyage
Qu'est-ce que c'est la vie
beaucoup,
d'artiste?
voilà, on est sollicité, je tiens à être logé chez les gens par exemple. Donc ça demande voilà, quand je vais chanter, ben ça demande aussi on est sollicité. Donc le temps où qu'on passe avec les gens, c'est une vraie rencontre et c'est formidable et en même temps ben voilà, ça demande une exigence. La plupart des gens le comprennent tout à fait, en fait. Ils comprennent et ils sont toujours très respectueux de ça. Mais voilà, c'est vrai que garder une vie de prière, c'est tout ce qui est de plus difficile. Mais c'est nécessaire.
Vous soutenez de nombreuses œuvres. Quelques mots aussi sur toutes ces actions que vous soutenez, importantes pour vous, très très
Ah
importantes.
oui,
Alors on en
parce
parle.
que en fait sur ce dernier album où j'ai vraiment qui s'appelle Changer de
On n'en
vie
a pas parlé, oui.
et puis ce livre que j'ai sorti Engage-toi, j'avais posé la question à ma maison de disques, c'est quoi pour vous un chrétien? Et on m'avait répondu, c'est quelqu'un qui s'engage. J'avais trouvé ça très juste, très beau. Et la même semaine, les éditions du Cerf sont venues me chercher. Ils me disent, voilà, toi, tu es un artiste chrétien. Est-ce que tu voudrais nous parler de l'engagement? Je dis, bon, c'est quand même une
Petit clin d'œil
sacrée
peut-être.
coïncidence. Et du coup, voilà, sont sortis en lien ce livre, ces 15 petits conseils pour s'engager, que j'adresse aux jeunes, mais que tout le monde peut lire pour remettre parfois des petites choses en place, c'est pas mal. Et puis cet album où j'avais vraiment envie d'expliquer bah voilà, que s'engager, c'est très simple et que ça commençait déjà dans les toutes petites choses, avant de vouloir partir à l'autre bout du monde. Et ça commence dans sa famille. Et puis,
Vous reprenez Mère Teresa aussi,
ouais, ça
Sainte
commence par
Thérèse
un
de
sourire.
Calcutta.
Et du coup, j'avais aussi envie de signifier ça sur quatre associations que je soutiens depuis plusieurs années. L'Ordre de Malte, j'ai créé un petit déjeuner qui accueille les personnes de la rue avec l'Ordre de Malte à Paris. L'Arche, le monde de handicap. Les projets Rosalie, ce sont des filles de la charité qui ont créé un site qui permet d'aider à financer certains de leurs projets. Et surtout d'avoir un suivi. Donc, on donne 1 euro, 5 euros, 100 euros, ce qu'on veut. On a la somme que ça coûte et on a le suivi. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que les sœurs, on les voit jamais, en fait. C'est la communauté la plus nombreuse. Elles sont 17 000, mais on les voit jamais parce qu'elles vont pas passer leur temps à les faire dans les médias. Elles veulent s'occuper des pauvres. Et donc, je trouve que c'est une initiative formidable. Allez voir les projets Rosalie. Voilà. Et puis, la dernière, c'est Fraternité en Irak, qui est une
Alors là, oui.
association qui soutient les chrétiens en Irak. On n'est pas tous appelés à partir là-bas, il y a tellement de choses à faire pour eux ici, voilà, trouver de l'argent évidemment, mais prier pour eux. Enfin, il y a vraiment plein de manières de s'engager pour eux. Moi j'avais envie d'aller les rencontrer, de passer un moment avec eux. Et Fraternité en Irak, une association extraordinaire, déjà tout l'argent qui est donné à cette association. Il y a 99,999% de l'argent qui va vraiment aux chrétiens d'Orient, puisqu'il n'y a aucun frais de fonctionnement, si ce n'est le commissaire aux comptes, et ça c'est parce que c'est obligatoire. Donc tout l'argent va là-bas, même les bénévoles qui partent payent leur voyage. Donc vraiment l'argent va aux réfugiés, et ça c'est vraiment quelque chose qui me touche dans cette association. Et puis aller les rencontrer, c'est de voir des gens qui ont tout perdu pour suivre Jésus. Vous voyez, on pourrait peut-être se dire de loin, ils ont fui la misère. Bon, c'est peut-être l'image qu'on a. Non, en Irak, c'est un pays de riches, en fait. Il y a du pétrole là-bas. Ils ont la sécurité sociale, ils ont un service, enfin, c'est un pays très développé. Et les gens, et il y a un truc qui est très frappant, c'est que quand on arrive dans les camps, aujourd'hui, ils sont logés en dur, ils vivent dans 9 mètres carrés à 5 ou 6, on est frappé parce que dans les allées des camps, il y a des gros 4x4 de luxe. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Alors moi, ma première réaction, vous voyez, quelqu'un d'assez malveillant, je me dis, mais ils n'ont pas acheté des 4x4 quand même. Et en fait, quand ils sont partis, la seule chose avec laquelle ils sont partis, c'est dans leur voiture. Et ça n'est que le témoignage de l'argent et de tout ce qu'ils ont perdu. Parmi eux, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des 40, dans 40% des diplômes d'ingénieurs en Irak sont détenu par les chrétiens. Sauf que les chrétiens représentent que 3% de la population. Vous vous rendez compte, en fait, ils n'ont pas fui la misère. Ils ont fui de très bonnes situations, ils ont perdu beaucoup pour être fidèles au Christ. Et moi, ça m'a bouleversé. Ce sont vraiment des témoins de notre foi qui sont incroyables.
C'est un avant et un après pour vous, cette expérience, ces deux voyages et ces rencontres.
Ils vous renvoient à la réalité. La réalité que, voilà, en France, on se plaint beaucoup.
On se plaint bien souvent.
Bien souvent. Ouais. On se plaint beaucoup et on ne devrait pas. On ne devrait pas, par respect pour eux. Ils ne sont pas là à nous culpabiliser de ce que l'on a. Moi, j'ai rencontré des gens qui veulent vraiment rester sur place, qui veulent aller à l'école, avoir leur diplôme, parce qu'ils veulent reconstruire leur pays, ils veulent trouver une solution. Même si aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais les solutions, elles se font... Enfin, il faut être vraiment rempli d'espérance pour les voir, même si on commence à récupérer quelques villages et tout. Parce que voilà, ce sont des familles, évidemment, qui pensent à leurs enfants. Évidemment qu'ils pensent à l'avenir de leurs enfants. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si nos enfants étaient dans un pays où il n'y a pas d'avenir, où ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas travailler, ils sont chassés, mais ils risquent de mourir à chaque instant. Qu'est-ce qu'on ferait ? Vous savez, on parle beaucoup de l'Irak, de la politique et tout ça. J'ai compris en allant là-bas que c'était beaucoup plus complexe que ce que l'on veut résumer en France. Et on ne peut pas appliquer le schéma occidental à l'Orient.
Pour les auditeurs là, qui vous découvrent, certains, cette semaine, en venant quelque part découvrir l'artiste dans les concerts, c'est un peu soutenir toutes ces actions.
Oui, vous savez, aujourd'hui, je fais de la musique chrétienne et quand vous achetez un de mes albums, eh ben, en fait, vous me permettez d'aller dans les médias, de parler de ces associations. En fait. Vous voyez, le système, il est simple. Aujourd'hui, la musique chrétienne, elle n'est pas boycottée des médias. Elle est simplement, aujourd'hui, est-ce qu'un artiste chrétien correspond à une audience ? Enfin, les médias réagissent comme ça. Si oui, alors à ce moment-là, j'ai une place. Et c'est comme ça que j'arrive à aller aujourd'hui dans certaines émissions de variété, par exemple.
Et à demain.
À demain.